Bonjour, bienvenue sur RCF Bordeaux pour l'émission littéraire 5e de couverture. Bienvenue Jean-Luc Larcher à RCF.
Merci Daniel.
J'ai oublié de dire aux auditeurs que vous étiez amoureux, éperdument amoureux de Venise. Vous avez noué avec cette ville un lien profond. Pour vous, Venise, c'est plus qu'une ville. C'est la lumière, la couleur, la vibration. Tout Venise respire la beauté. C'est ce que vous écrivez. Et c'est ce que vous vivez quand vous y êtes. Alors, je me demande, Jean-Luc Larcher, la première fois, vous vous en souvenez, quand vous êtes arrivé à Venise, la première fois?
Merci de me recevoir. Et oui, la première fois, c'était, je pense, au milieu des années 80, avec deux amis, et on s'est retrouvés dans un camping un petit peu éloigné de Venise, et on a avancé petit à petit vers la ville, on a pris le bus, et on a vu tout de suite une ambiance assez particulière italienne, où les garçons et les filles se rigolaient, se draguaient un peu comme ça, et on m'a dit, tiens, c'est l'Italie, ça. Et puis on est arrivé dans Venise, un peu dans la soirée. Et à ce moment-là, on a évidemment vu quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, bien sûr, et qui tout de suite nous a sorti des cartes postales, nous a baigné tout de suite dans le bain de cette ville où il y avait des bateaux, où il y avait des ponts, où il y avait des ruelles, où il y avait beaucoup de gens aussi déjà, et puis des chats errants, des voilà. Avec, on était à l'époque un peu dans le mythe de Venise romantique. Un peu en ayant vu déjà la mort à Venise de Thomas, enfin le film de Visconti. Mmh. On était un petit peu c'était un peu notre âge aussi. On était dans le romantisme.
Vous n'étiez pas encore dans l'art, parce que vous êtes un amateur d'art éclairé, notamment en peinture et sculpture. Et Dieu sait si Venise propose un large éventail. Et dans votre livre, il y a deux personnages qui vont permettre au lecteur d'être initié dans la découverte de ces arts magnifiques à travers tous les monuments que vous citez d'ailleurs dans votre livre. Et c'est Hugo et Clara. Donc on va suivre Hugo et Clara dans leur découverte.
Oui, c'est ma première véritable tentative de roman à deux personnages. Donc un homme qui arrive à Venise en voiture, comme ça, un peu décalé, des voyages obligatoires en avion. Voilà, il arrive à Venise et puis de façon un peu miraculeuse, comme ça, et il est déjà venu dans cette vie, mais là, de façon un peu miraculeuse, il rencontre assez rapidement une jeune femme qui le regarde, il se regarde comme s'il se connaissait peut-être déjà, en fait. Et il va y avoir une sorte de coup de foudre. Et ce coup de foudre va les amener à... Enfin, ce coup de foudre, bien sûr, mais va les amener à un trajet dans Venise où, petit à petit, la confiance qu'ils vont avoir l'un de l'autre va leur faire appuyer sur le fait que la peinture de la mer à Venise, de la mer, a disparu pendant deux siècles. Donc c'est Clara qui dit ça à Hugo à un moment donné, lui dit, ben, quelqu'un m'a dit que la mer avait disparu de la représentation picturale. Hugo est très étonné de ça, et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, petit à petit, ils vont mener une sorte d'enquête, une enquête légère, une enquête au gré de navigation, au gré de spritz en terrasse, de restaurant, voilà, de façon légère. Et donc, Clara, qui est spécialiste de l'art, Hugo va l'accompagner dans cette recherche un peu en curiosité.
Alors, vous dites d'ailleurs, au passage, on peut dire à nos auditeurs et à vos futurs lecteurs surtout, qu'en réalité, Venise, c'est seulement 550 km² qu'il y a 118 îles, 400 ponts, 177 canaux, et que sans s'en rendre compte, on passe, en parcourant la lagune, on passe d'une île à l'autre, et vous dites, Venise est aquatique. On va de bateau en bateau, de vague en vague, là je vous cite, hein, oui. De nuage en nuage et de souffle en souffle. Donc Clara, elle a cette intuition-là et elle la communique à Hugo. Et tous les deux ont en commun cette recherche éperdue de ce qu'est vraiment l'âme de Venise. Et donc, quand ils vont parcourir ces ruelles, etc., ils sont quand même en très bonne compagnie. Moi, j'en ai retenu une, parce qu'il y en a tellement. J'ai retenu les trois T, Tintoré, Tiepolo et Titien. Alors, vous voyez que là, il y a de quoi parcourir Venise et avoir de belles découvertes.
Et oui, ces deux personnages peuvent effectivement servir de guide, en menant le livre, de guide au lecteur qui s'intéresse à l'esthétique vénitienne, sachant que ben, Venise, on le sait avec Elifort et Malraux, avec les historiens de l'art, est un peu l'apothéose de l'art italien. Hein, après Florence et après Rome, Venise est la grande forme, la forme aboutie avec les peintres que vous venez de citer, Tintoré, Véronèse et Titien. Et voilà. Et alors, ces peintres-là, il se trouve qu'en regardant, en les suivant, de musée en musée, du musée Corrère au musée des Doges ou d'église en église, parce qu'à Venise, il se trouve que les églises sont bourrées de chefs-d'œuvre, sont vraiment incroyablement. Ce sont des musées, de toute façon. On parlera. Je peux parler juste de l'église des Frari avec l'Assomption de Titien, l'Assomption de la Vierge. Voilà. Donc, effectivement, chez ces peintres-là, eh bien, pas de traces de mer, pas de traces de la mer. La mer est un élément qui a été, alors qu'il appartenait à leur quotidien, ces peintres n'ont pas voulu. Ou l'ont oublié, ne pas voulu représenter le thème de la mer, alors que Venise baigne dans cet élément aquatique avec ses bateaux, cette navigation, et surtout la mer a servi à Venise de s'enrichir, de devenir pendant trois siècles entre le 14e et le 17e siècle la ville la plus riche du monde. Les gens venaient de Hambourg, c'était un peu le New York de son temps, hein, c'est-à-dire que au Rialto, boucherie, tissus, poissons évidemment et autres marchandises étaient échangées et les marchands venaient de la Manche donc ou du fin fond de la Méditerranée voilà. Donc, cet élément qui avait servi de support en fait aux bateaux, aux vaisseaux, eh bien pendant deux siècles, étonnamment Tiepolo jusqu'au 18e, ne représente, qui vit quand même assez tard au 18e, ne représentera pas la mer non plus. Tiepolo restera un petit peu pris dans cet interdit. Et puis ensuite, évidemment, ça sera que ça. C'est-à-dire qu'après, Canaletto, Guardi, d'autres, eux, ne cesseront de représenter la mer, quoi. Voilà. Mais il y a ce mystère qui est là et qui est amené par ces deux personnages pour donner aussi une légèreté, parce qu'un essai là-dessus demanderait peut-être d'être un grand connaisseur, ce que je ne suis pas, hein. Moi, je suis un dilettante peut-être éclairé parfois, mais en tout cas, ça permet de fluidifier ce sujet, maritime certes, mais quand même mystérieux et qui demande aussi de regarder beaucoup de tableaux, de faire ces comparaisons pour constater qu'il y a un mystère de cet élément maritime fondamental à la ville.
Alors, le lecteur profite de cette recherche parce que vous prenez le lecteur par la main, vous l'entraînez, vous lâchez pas le lecteur. On est d'une page à l'autre très dans cette recherche, parce qu'il y a une forme de légèreté, une forme de presque d'insouciance. La quête est sérieuse, la recherche est sérieuse, mais l'attitude de ces deux personnages est extrêmement ludique, en définitive. Et on a des surprises. Moi, j'ai eu la surprise de retrouver une petite église que j'avais découverte. C'est l'église de San Sebastiano.
Oui.
Voilà, avec le fameux colorito vénitien.
Oui.
On peut en parler. Et puis l'autre que j'ai découverte aussi, enfin que j'ai revécu grâce à eux, à ces personnages, c'est la Madonna dell'Orto.
Oui.
Aussi, hein, où, près de la maison du Tintoré.
La
tombe du Tintoré.
La partie nord de Venise.
De
oui.
Venise,
oui,
voilà.
Oui.
Alors j'ai cité ces deux-là, mais il y en a d'autres.
Il y en a plein d'autres, oui.
Parce que en fait, on parlait de la disparition de la mer à Venise dans la peinture, bien entendu. Hein, parce que en fait, c'est les commanditaires, ça les intéressait peut-être pas.
Il y a quelque chose comme ça, effectivement. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, dans San Sebastiano, qui quand même possède 14 tableaux de Véronèse, hein, c'est-à-dire c'est pas n'importe quoi. Si le Vatican décidait de vendre cette église, Dieu ne plaise, dirais-je, pour m'amuser, ça mettrait complètement leur sang dessus, parce que 14 tableaux de Véronèse concentrés comme ça, voilà, sur San Sebastian. Alors effectivement, le roman commence aussi là-dessus. Clara est très très intéressée par cette église, parce que elle retrouve dans le martyre de Saint Sébastien une histoire qu'elle vient de vivre à Rome avec son précédent ami, et elle commence, c'est comme ça que Hugo et Clara se rapprochent par le biais de cette église et de cette peinture.
CF, cinquième de couverture.
Nous venons d'écouter le choix musical de mon invité Jean-Hugues Larcher, qui présente son livre La mer à Venise, et c'est aux éditions Zérac. Et vous avez choisi Vivaldi. Forcément Vivaldi, on ne peut pas échapper à Vivaldi.
Mais non. Moi je n'y échappe pas depuis longtemps, depuis 45 ans, je dirais, hein, comme ça, c'est voilà, depuis presque un demi-siècle, parce que Vivaldi a été le premier qui m'a donné la révélation de l'art, tout court. C'est-à-dire, quand j'ai écouté les Quatre Saisons, qui maintenant, évidemment, est devenue un peu une musique d'ascenseur que les gens n'écoutent pas, mais qui trouvent un peu insipide dans le flot de musical de qui les entoure. En tout cas, Vivaldi, pour moi, a été le premier artiste qui m'a donné l'envie d'aller vers la musique, vers la peinture, découvrir tout ça. Et il se trouve que je ne savais pas, moi, que Vivaldi, enfin, je savais vaguement qu'il était vénitien, un peu vaguement. Et quand j'ai découvert Venise, donc, je me suis retrouvé il y avait cette correspondance entre eux, ce grand musicien et cette ville. Et je trouve que ce grand musicien a rendu au plus juste de sa matérialité La justesse de la plus juste à la matérialité, Venise, la ville de Venise avec ses bruits de vent, de conques, d'oiseaux, de cloches, voilà. Et donc Vivaldi, je l'écoutais encore ce matin.
Voilà, parfait. Alors, vous êtes là donc pour présenter votre livre La mer à Venise aux éditions Zérax, je le rappelle, et nous étions en compagnie des deux personnages de votre livre, Hugo et Clara, et nous suivons leurs traces à travers les ruelles de Venise, chaque fois qu'ils franchissent un pont, chaque fois qu'ils parcourent aussi les canaux, avec les fameuses gondoles, bien entendu, mais surtout avec ce qu'ils portent tous les deux, c'est-à-dire l'amour de l'art, particulièrement l'amour de l'art vénitien, à une certaine période, en constatant que pendant 2 siècles, c'est-à-dire vers 1600, 1700.
À partir de 1500.
1500 jusqu'à 1700.
Jusqu'à 1700.
Eh bien, dans les représentations des grands peintres vénitiens, la mer disparaît. Et ça leur permet à ces deux personnages de découvrir au passage, dans leur enquête, des trésors.
Voilà.
Des trésors. Et nous en profitons. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai lu votre livre avec à côté de moi l'ordinateur pour que chaque fois que vous citiez une église, un musée, un tableau, une sculpture, je me précipitais pour en voir la représentation sur l'écran. Et je pense que ça, c'est indispensable. Même si, je précise, ce n'est pas un guide d'art.
Non.
C'est une promenade.
Voilà.
Mais vraiment décontractée, surprenante. On est de surprise en surprise. On est dans l'art, mais sans en subir le poids, qui peut être pesant parfois. Donc, nous sommes là et nous constatons que la mer est absente à Venise. Mais vous faites quand même mention de ce fameux, de ces marées et de la fameuse Acqualta.
Acqualta, voilà, oui, bien sûr. Alors l'Acqualta, c'est un peu ce qui a donné à Venise, dans l'image romantique, cette possibilité d'être engloutie, hein, parce que c'est vrai qu'elle peut être engloutie de façon temporaire. Hein. Alors avec le projet Moses, c'est-à-dire les dispositifs qui relèvent, qui empêchent la marée de monter. Elle est un peu moins fréquente. Voilà. Donc après, oui, à l'Acqualta, effectivement, il y a cette présence maritime qui, est complètement antinomique avec cette histoire de peinture qui disparaît. Et alors, Clara et Hugo, en fait, ils essaient de, ça dure une petite semaine, et ils essaient d'avoir un séjour le plus ludique possible, amoureux certes, enfin, mais ludique. Alors ils vont voir un concert de Vivaldi à la Pietà, c'est l'Estro Armonico, c'est-à-dire c'est la grande œuvre aussi de Vivaldi. Voilà, alors in situ, c'est-à-dire quand on voit Vivaldi et qu'on sort sur les quais des Schiavoni, les quais des Esclaves, pas très loin du Pont des Soupirs, à ce moment-là, effectivement, on est dans le bain, quoi. Voilà. Et ils vont sortir, voilà. Et ensuite, se balader dans Venise, c'est découvrir, en poussant des portes d'église, en poussant des portes de musée, des choses extraordinaires qui tiennent à l'infini, en fait, hein, à quelque chose dont on ne fera jamais le tour. Donc Venise, par son aspect labyrinthique, par son aspect un peu d'escargot, par son aspect parfois sans issue, peut déclencher autant de mal-être peut-être que de félicité, voilà. Et donc les peintres dans la recherche qu'ils font, ils s'aperçoivent que effectivement ils étaient très très tournés de par les commandes, très très tournés vers les sujets religieux. Hein. Ici on est RCF, donc on connaît la question.
Oui. Donc, biblique aussi, biblique.
Et biblique, voilà, la Bible. Alors voilà, il y a référence à la Bible à un moment donné. Effectivement, Hugo qui est écrivain, le matin travaille sur le déluge. Et il dit ah oui, alors dans le déluge, effectivement, la mer est très très importante et recouvre l'eau. Voilà, un peu comme l'Acqualta peut recouvrir toute proportion gardée la Sérénissime.
Alors, vous dites, d'ailleurs, et on le vit avec ces deux personnages, vous dites à Venise, il y a 4 constituants, il y a la mer, il y a le ciel, il y a la terre, et il y a surtout le feu intérieur.
Oui.
Et vous dites que ce feu intérieur, c'est un feu créatif. C'est pourquoi il y a cette pépinière extraordinaire de peintres dans le même temps.
C'est ça.
C'est extraordinaire.
Il y a autant de peintres. Alors évidemment, à Florence, il y avait beaucoup de peintres aussi, hein, à Rome
à
également.
Rome, bien sûr.
Mais là, sur une île, sur une petite île, une concentration d'aussi grands peintres, hein, c'est-à-dire,
oui.
On les a cités, mais voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, je sais plus trop.
C'est le feu sacré.
Oui, voilà, pardon. Donc, le feu sacré. Ah oui, ben, le feu sacré, c'est cet élément qu'on ne voit pas, a priori, hein. C'est pas un feu de dragon, hein. C'est un feu très intérieur, qui m'a beaucoup intéressé d'approfondir à partir d'un poème aussi de Baudelaire, qui est l'invitation au voyage. Alors, dans l'invitation au voyage, justement, Baudelaire parle, moi, j'ai situé cette invitation au voyage du côté de Venise et non pas du côté d'Amsterdam, comme les critiques le font, parce que j'ai trouvé que, en tout cas, il correspondait bien. Et j'ai essayé de montrer comment il pouvait correspondre. Et donc, c'est vrai que à Venise, il y a ce feu des Vénitiens. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu, quand on circule dans le Grand Canal, c'est ce que je fais chaque fois que je vais à Venise. Je descends le Grand Canal une fois, et quasiment tout de suite après, je le remonte. Donc, ça me fait quand même déjà...
La perspective n'est pas la même.
Ouais, la perspective, du tout. Elle n'est pas du tout. Elle est pas la même. Elle est complémentaire. Et elle est féerique. Alors, une fois deux jours, une fois deux nuits, par exemple. Et à ce moment-là, ben dans cet aller-retour de Grand Canal, là on voit qu'il y a une telle prolifération de bâtisses qui sont à peu près du même style, certes, mais avec des fioritures tellement différentes, des fenêtres tellement différentes, des balcons différents, des styles très différents. Il y avait ce côté aussi, le feu qui voulait être dans la construction de ces palais. Je crois qu'il y a 250 palais qui se touchent en fait, hein, qui forment cette grande artère presque fluviale, on peut dire, hein, tellement elle est large, elle est belle et elle est absolument féerique. Et on dit que c'est les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Moi, je n'ai rien contre les Champs-Élysées, mais ça reste sur terre. Et là, on est sur l'eau et on remonte et on descend à l'envi. On s'arrête aussi, si on veut, à certaines stations de Vaporetto ou de taxi, si on prend le taxi. Hein. Voilà, ou de gondole ou de traghetto qui permettent de traverser d'un côté à l'autre le Grand Canal. Donc le feu, effectivement, il est sorti de cette eau. En tout cas, il a permis de construire sur l'élément maritime oublié dans la peinture. Ben ce feu, justement, alors il a permis de construire les palais et aux peintres d'aller très haut dans le ciel en fait, hein, de partir un petit peu, de se percher dans le ciel, avec ce que j'appelle, mais peut-être vous en parlerez, la sprezzatura.
Oui, c'est ça. Alors, justement, j'allais vous dire que Hugo et Clara nous donnent cette cadence-là, ce rythme-là, et c'est ce que vous appelez une désinvolture concentrée. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'ont l'air de rien, ils ont l'air de se balader, mais ils remarquent tout. Mmh. Ils voient tout, toutes les nuances autour d'eux. Et dans votre livre, vous savez très bien les faire ressentir au lecteur.
Mmh.
Et si... Vous avez, en plus, on a l'écran de son ordinateur devant soi.
Oui, oui.
On en profite encore plus.
C'est nécessaire.
Encore plus. Et c'est, je dirais, presque c'est indispensable.
Oui, c'est indispensable.
C'est indispensable pour lire votre livre. C'est magnifique. Donc, vous faites partager au lecteur cette Venise que vous aimez avec passion. Elle est hors du temps. Ça, c'est sûr. Vous dites qu'elle est très féminine.
Oui.
Qu'il y a à la fois de l'indécence parce qu'elle se laisse voir.
Il y a un côté un peu Vénus aussi, hein.
Un peu Vénus.
Il y a la Vierge et la Vénus.
C'est ça. Elle est un peu aussi provocatrice.
Oui.
Et on a bien de la chance d'aller avec vous, avec votre bouquin, à Venise. Donc, lisez, mais vraiment, lisez avec l'ordinateur, je le conseille. La mer à Venise de notre invité, Jean-Luc Larcher. C'est aux éditions Zérac. Et maintenant, c'est place à la littérature jeunesse avec la chronique. Et toi, tu lis quoi?